Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Aurélien Fleureau.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des entrepreneurs, des initiatives, des parcours de vie. La France bouge. Ici, c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. On en parle ensemble avec vous, Aurélien Fleureau, du service économie d'Europe 1. Bonjour Aurélien.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. Un vent d'optimisme souffle sur Paris, sur la France. Les réservations et recherches de vols à destination de la capitale sont en hausse depuis plusieurs semaines. On va parler de cette lueur d'espoir avec notre invité du jour, le secrétaire d'État chargé au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Il est avec nous en studio jusqu'à 14h.
À la une, envoyer son enfant, tiens, en colonie de vacances. Oui, mais laquelle? Comment faire confiance? Une start-up que l'on a trouvée, nous, ici à La France Bouge, regroupe tous les séjours en France, c'est Totemia, et on la découvre d'ici quelques minutes.
Et puis partir en vacances, c'est évidemment possible grâce au congé payé. Ce sera notre saga du jour, rendez-vous vers 13h30.
Chaque jour dans La France Bouge, les trophées Europe 1, les trophées de l'avenir, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, avec la CCI, nous avons retenu Alma Héritage. Réserver ses vacances, oui, mais dans un château, et c'est possible. Le pitch va-t-il vous convaincre? La réponse à 13h45.
Et en fin d'émission, demain au travail, on passera un coup de fil à l'une des dirigeantes du groupe Fed. Là-bas, on a trouvé la solution pour que les équipes restent soudées, même en cette période de télétravail. On vous en parle à 13h50.
Bienvenue dans La France Bouge, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France Bouge sur Europe 1.
Et La France Bouge et part en vacances à quelques jours, quelques semaines pour certains, des vacances d'été. Comment se préparent nos stations balnéaires, les hôtels, les campings? Sommes-nous prêts sur le plan sanitaire? On en parle jusqu'à 14h avec notre témoin du jour.
Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes secrétaire d'État chargé du tourisme. Faire le choix de la France, c'est faire le meilleur choix. Ce sont vos mots. Monsieur le ministre, vous faites le tour d'Europe en ce moment pour vendre la destination France. Depuis le 9 juin, les voyageurs européens vaccinés peuvent rentrer chez nous en France. Alors monsieur le ministre, les touristes vont-ils être de retour pour cet été 2021?
La réponse est oui, je le pense. Ça sent bon, ça sent très bon,
ah,
pour dire
ça.
Les choses très, très directement. On voit que d'une part, il y a la force du tourisme national, du tourisme domestique français. Et c'est vrai que l'année dernière, les Français ont plébiscité la France à 94%. Cette année encore, ça sera un peu moins parce qu'on a retrouvé de la mobilité en Europe, par exemple, et tant mieux, parce qu'on accueille aussi de nombreux touristes européens.
Ça marche dans les deux sens, effectivement.
Ça marche dans les deux sens, exactement. Et tous les indicateurs semblent passer au vert. Je vous donne quelques exemples. Les Gîtes de France nous signalent, par exemple, qu'aujourd'hui, ils sont à des taux d'occupation qui sont supérieurs de 8 à 14 points par rapport à l'été 2019.
Donc
et l'été 2019
crise,
était lui-même un été record. En discutant également avec la Fédération Nationale de Hôtellerie de Plein Air, ça y est, ils m'ont signalé qu'ils basculaient en avance de phase par rapport à 2019.
Ça veut dire quoi, en avance de phase?
C'est-à-dire qu'ils ont plus de réservations aujourd'hui qu'ils n'en avaient à la même époque en 2019.
Donc par rapport à une période dite normale,
et une
avant
période
la crise.
Qui était même, en fait, très bonne.
Donc ça va hyper bien pour les campings, pour les gîtes.
Tout à fait.
Les hôtels, vous êtes...
Alors, c'est contrasté aussi selon les territoires, parce que vous évoquiez Paris. Paris, l'Île-de-France ont été plus lourdement touchés depuis le début de la pandémie, parce qu'il y a également tout un tourisme d'affaires qui ne revient pas immédiatement. L'événementiel n'a pu reprendre qu'il y a quelques semaines. Les grandes foires, les grands salons, ça va être plutôt pour la rentrée. Même si un événement s'est tenu la semaine dernière, vous savez, Vivatec, 140 000 visiteurs. Donc c'était une belle
test
première,
grandeur
exactement.
Nature,
ouais. Et donc, en revanche, donc l'hôtellerie à Paris reste encore touchée. Et c'est pourquoi d'ailleurs on maintient nos aides. On a voté là 15 milliards d'euros de soutien additionnel à l'ensemble des secteurs économiques qui sont plus touchés pour les prochaines semaines, les prochains mois. Mais en revanche, ça se porte bien sur le littoral. Y a le littoral atlantique fonctionne très bien. Ça fonctionne bien également à la montagne, par exemple, et sur d'autres types d'hébergements. Par exemple, l'UNAT, qui fédère un certain nombre d'acteurs du tourisme social, nous signalait qu'ils sont eux aussi en avance par rapport à 2019. Et à la montagne, ils sont à plus de 26% de réservations. Je crois que ça traduit aussi une envie à la fois de redécouvrir la France. Et c'est vrai que j'avais lancé l'été bleu-blanc-rouge, donc je suis heureux de voir ce mouvement, parce que la France, elle est quand même, elle est géniale, parce qu'on a tout. On a la mer, on a la montagne, on a le rural, on a le patrimoine, etc. Ouais. Et puis, il y a aussi, dans les tendances, je trouve, cette envie d'aller vers les grands espaces, vers la nature. Et c'est aussi un des succès de la montagne l'été dernier, je pense aussi cet été.
Donc cette envie de rattraper le temps qu'on a passé confiné, est-ce qu'on sait un petit peu quels sont les touristes qui vont pouvoir revenir facilement, espagnols, italiens, belges, ce sont nos voisins les plus proches a priori?
Tout à fait. Alors il y a une autre tendance qu'on voit, qui a été accélérée par la pandémie, c'est que désormais on part peut-être moins loin. Il y a un tourisme qui se fait un peu en circuit court et parfois aussi en prenant plus facilement son véhicule parce qu'on a l'impression de rester peut-être dans cette bulle familiale. Et c'est ce qui explique par exemple que nos voisins belges, j'étais à Bruxelles il y a 15 jours, eh bien, ils vont être plus nombreux qu'ils ne l'étaient aussi en 2019, je prends une année de référence, à venir en France. C'est-à-dire qu'ils vont plébisciter la France à hauteur de 5 à 10 points de plus qu'auparavant. Nous étions déjà la première destination, le premier choix qu'il faisait pour l'été, et ça va s'accroître. Mmh. Et c'est également ce que je ressens en allant à la rencontre avant-hier des Allemands, je serai la semaine prochaine en Suisse, avec aussi, et ce qui m'a frappé en parlant avec les voyagistes en Allemagne, vraiment cette notion de tourisme durable qui s'inscrit désormais comme une référence et beaucoup qui souhaitent aussi voyager par le train, s'assurer que, en tous les cas, l'empreinte de leur voyage est prise en compte.
Donc un voyage en France pour les Belges, pour les Allemands, mais nous en France, on est prêts à les recevoir ?
Tout à fait. Les acteurs touristiques se sont préparés soigneusement. Je les réunis très régulièrement au sein d'un comité de Fier Tourisme. Ils ont préparé des protocoles qui sont en béton armé. Et c'est très important parce que nous sommes ici dans le studio. On a encore les vitres en plexiglas, etc. C'est partie des protocoles.
Et nous portons les masques.
Voilà. Et ceux qui, justement, les acteurs touristiques ont mis en place ces protocoles pour qu'on puisse conjuguer les gestes barrières avec la crème solaire, voilà.
Ça va être le mantra des vacances.
Parce que le Premier ministre était aujourd'hui même dans les Landes, vous l'avez vu, c'est un département où le variant dit Delta circule plus qu'ailleurs, et c'est pourquoi on sait que ce variant il va progressivement croître et prendre le pas sur les précédents, et on sait qu'il est plus contagieux, et donc c'est pourquoi il faut maintenir un certain nombre de précautions. Vacances, ça rime aussi avec prudence.
On va en parler justement de cette prudence qui est encore de mise, ce n'est pas encore terminé cette pandémie. Jean-Baptiste Lemoine, vous êtes le secrétaire d'État chargé du tourisme, vous nous dites que tous les indicateurs sont au vert, c'est ce que nous retenons pour l'instant, vous restez avec nous.
Europe 1, il est 13h17.
Bientôt les vacances et vous souhaitez envoyer votre enfant à un séjour linguistique ou un séjour sportif? Eh bien, on a trouvé la start-up de réservation de colo de dernière minute.
C'est Totemia, tous les séjours pour les enfants y figurent et on les découvre d'ici quelques petites minutes. Et nous sommes depuis 13h avec notre témoin du jour. Il s'agit de Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme.
Et c'est bientôt les grandes vacances. Et comment occuper ses enfants pendant 2 mois? On a envie d'envoyer ses enfants
en colo.
Oui, mais où? Quel programme? Comment faire confiance aux organisateurs? L'offre est très importante, alors c'est difficile de faire son choix. Et nous, on a trouvé une solution grâce à vous, Tony Debord. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG et le cofondateur de Totemia. Totemia, c'est une plateforme qui réunit tous les séjours pour enfants. Elle est toute jeune, elle a à peine 6 mois de commercialisation. J'y suis allée faire un tour, c'est simple, il y a tout, séjour linguistique, le séjour à thème, comme séjour cinéma, séjour danse, tennis ou foot. Mais comment vous avez eu cette idée? Ça n'existait pas, il n'arrive pas sur le marché?
Alors, vous l'avez très bien présenté, donc Totemia est la première plateforme de réservation de séjours pour enfants et adolescents qui met en relation donc les familles et les organisateurs de colonies vacances, séjours linguistiques, qui organisent des séjours pour les 6-17 ans en France et à l'étranger. L'histoire de Totemia, c'est l'histoire de deux amis issus du monde du e-commerce et du conseil d'entreprise, donc moi-même et mon associé Mathieu Soula. Deux amis qui avaient pour ambition de développer un projet à impact. Et on sait ô combien les bienfaits qu'apportent les colonies de vacances aux enfants sont nombreux. Vous en avez très bien parlé la semaine dernière avec Guillaume Legault de l'UCPA. Et puis voilà, Totemia, c'est aussi l'histoire de deux constats. Premier constat étant une difficulté de la part des parents à trouver le séjour idéal pour l'enfant, en termes d'activité, de destination, mais aussi naturellement en termes de budget. Et puis c'est aussi un manque de confiance de la part des parents envers le sérieux des organismes, envers la qualité des activités, la qualité de l'encadrement. Voilà. Et donc une vraie opportunité pour nous de développer une marketplace pour faire réconcilier l'offre et la demande et aussi pour se positionner en tant que tiers de confiance sous la vérification du sérieux des organismes référencés sur la plateforme.
Et justement, alors comment vous arrivez à garantir ce sérieux? Comment on arrive à être sûr, on a confiance d'envoyer notre enfant à un endroit évidemment qu'on ne connaît pas jusque-là?
Alors d'une, on vérifie leur label, s'ils ont des labels délivrés par des organismes certificateurs.
Donc ça, vous faites vraiment ce travail en amont pour que nous, à partir du moment où on a choisi, on est sûr.
On est sûr, voilà, tout à fait. De deux, on vérifie également leur bonne déclaration auprès des directions départementales de la cohésion sociale, ouais, qui, elles, sont chargées de mener des contrôles un peu surprises dans les centres de vacances pour vérifier le respect des normes sanitaires, mais aussi des normes au niveau de l'encadrement et de l'hébergement.
Donc, ce que vous apportez, c'est vraiment aussi la possibilité de choisir par activité. Voilà,
par activité,
mon fils est passionné de tennis. Voilà, donc, forcément, j'aurai tout ce qui se passe autour du tennis. Ça me permettra de choisir.
Exactement, voilà. De choisir, réserver et directement payer en ligne. Voilà.
Alors, okay. L'une des particularités de votre plateforme, c'est qu'elle est destinée aux enfants, oui, mais surtout aux enfants défavorisés. Vous avez d'ailleurs des séjours en partenariat avec la CAF. C'est important pour vous de toucher tous les publics ou c'est spécifiquement dédié aux enfants dont les parents n'ont pas forcément les moyens de les envoyer en vacances?
Alors, on a développé chez Totemia un vrai modèle de réservation équitable qui se traduit chez les organisateurs, d'une, par un taux de commission qui est réduit par rapport aux taux de commission qui sont pratiqués sur le marché, un taux de commission qui est unique, quelle que soit la taille de l'organisme, et également une commission qui est unique dans le sens où il n'y a qu'une commission, il n'y a pas de coût d'entrée ni de frais de participation des campagnes marketing.
D'accord.
Chez les parents, ça se traduit par un partenariat exclusif qu'on a développé avec la CAF et qui permet aux jeunes de directement utiliser une aide qui s'appelle l'aide AVEN, qui est délivrée par VACAF, qui est la branche famille de la CAF, qui est un peu l'APL des colonies de vacances, et qui est directement utilisable sur Totemia, et qui permet de voir le prix du séjour considérablement réduit. On parle d'une subvention qui va entre 50 et 800 euros par participant.
Ah oui, c'est
très intéressant.
C'est énorme.
Peut-être un petit mot sur l'aspect sanitaire. On est rassuré sur le sérieux. L'aspect sanitaire, là aussi, il y a tout pour être rassuré.
Exactement. Nous, on demande aux organismes référencés de s'engager à bien respecter le protocole sanitaire qui a été écrit, rédigé et publié par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
D'accord.
Jean-Baptiste Lemoine, vous êtes notre grand témoin du jour. Hein. Vous êtes le secrétaire d'État chargé du tourisme. Les colonies de vacances, ça fait partie aussi des vacances, du tourisme. Il y a des colonies de vacances où on peut découvrir de très beaux endroits en France. Quel regard vous portez justement sur cette start-up qui offre la possibilité à tous les enfants de partir en vacances?
Non, mais c'est génial, tout simplement, parce que c'est vrai que je l'ai utilisé moi-même, j'ai regardé, c'est vraiment très simple. Et puis, voilà, il y a une offre qui est foisonnante, mais au moins, elle est visible et elle est facilement accessible. Je dois dire que les jeunes ont été particulièrement impactés par cette pandémie. Alors, c'est vrai pour les plus jeunes, mais c'est aussi vrai pour les ados ou les jeunes adultes qui parfois, la fac s'est arrêtée, etc. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le président de la République a souhaité qu'on puisse mettre en place, qu'on puisse booster un dispositif pour les 18-25 ans. Et donc, dans le même esprit, j'incite ceux qui ont entre 18 et 25 ans de se rendre sur également le site Départ 18-25 parce que avec l'Agence nationale des chèques vacances, on offre jusqu'à 300 euros de subvention pour contribuer à votre départ en vacances. Ça permet d'acquitter une partie de l'hébergement, du voyage, etc.
Pour aller où ?
Il faut rentrer, alors, pour partir en France.
Il faut,
il y a des conditions au-delà de...
Alors, il y a des conditions liées justement à vos revenus, etc. Ou à votre condition, si vous êtes apprenti, etc. Ouais. Vous y êtes éligible. Mais tout est indiqué. Départ 18-25 avec l'Agence nationale des chèques vacances. Mais je voulais le signaler parce que cette pandémie, elle a touché tout le monde. Mais et la jeunesse plus particulièrement.
Oui.
Et donc, c'est bien de pouvoir aussi les aider à pouvoir prendre un bol d'air, s'oxygéner, s'aérer, se retrouver entre amis. C'est des moments, c'est ça. Quand on est étudiant, c'est pas que l'apprentissage, c'est également une vie sociale, c'est l'apprentissage de la vie en société.
Et ils ont besoin de la retrouver après ces longs mois confinés et avec des cours en visio. Alors justement, Jean-Baptiste Lemoine, vous parlez des prix. Les prix vont-ils augmenter cette année? Est-ce que vous avez été particulièrement attentif à ce que les hébergeurs... où les restaurants de bord de plage n'explosent pas les prix pour rattraper les fermetures?
Alors, on a mis énormément de dispositifs de soutien à ces acteurs pour les aider à passer le cap. On en est, pour vous donner un chiffre, à 30 milliards d'euros mis sur la table depuis 15 mois pour le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration. Donc, on espère naturellement que et on le sait, ça aide à passer le cap.
Et 15 milliards d'euros supplémentaires récemment.
Voilà, exactement. À travers un fonds de solidarité, la couverture des charges fixes, etc. Donc, on espère qu'il n'y aura pas d'emballement des prix. Maintenant, il est vrai qu'il y a une offre et une demande, et on voit que l'offre redevient très importante en France et que ici ou là, il peut y avoir certains propriétaires de logements, etc., qui
ont
jouent
envie
une petite augmentation. Ça, c'est sûr. Mais de la même façon qu'ailleurs en Europe, certains me signalent d'ailleurs des augmentations de tarifs pour se rendre ici en Grèce ou ailleurs. On voit bien qu'il y a un risque de surchauffe
qui
n'est pas neutre.
Le temps perdu.
Mais maintenant, je crois que
vous
ce qui est aussi important...
Vous y serez attentif?
naturellement, même si on ne peut pas non plus tout régenter. Ce qui est important, moi j'ai insisté, j'ai été en revanche assez directif vis-à-vis des acteurs pour qu'ils mettent en place des conditions commerciales flexibles. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on part avec les incertitudes de la pandémie, parfois tout se décide un peu à la dernière minute, un voyage peut être remis en cause parce que bah, vous êtes tout d'un coup, vous êtes touché ou un membre de votre famille est touché. Mmh. Et donc là, en revanche, il est important qu'il y ait de la flexibilité, que vous puissiez être remboursé, que vous puissiez, en tous les cas, ne pas perdre ce que vous avez investi.
Tony, d'abord, avant de nous quitter, vous avez fiché complet là, pour cet été au niveau de l'économie de vacances ?
Alors, on est quasiment complet pour le mois de juillet, mais il reste quelques places pour le mois d'août hein, sur de très belles destinations en France, mais aussi à l'étranger. Voilà, dans des pays notamment qui sont en zone verte, hein, donc Malte, la Grèce, l'Espagne, le Portugal.
Alors, si vous nous avez écoutés, hein, vous pouvez, si vous avez des enfants envoyés en colonie de vacances, ça s'appelle Totemia. Merci Tony Debord d'être venu dans
Merci
la France Bouge nous parler de votre start-up.
Et Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme, vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
13h28 sur Europe 1, elle a été une innovation sociale majeure dès l'année 1936. Pas moins de 600 000 Français partent en vacances grâce aux congés payés.
Comment sont-ils nés en France? Il paraît que ça remonte à Napoléon III. On va tout vous dire, ce sera la saga du jour de la France Bouge dans un instant. Et avec Elisabeth Assayag, nous sommes ravis d'être avec vous, Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme. Alors, on l'a vu avec vous, les réservations... Ça se présente bien,
ça
vous avez
bon,
même
vous
parlé,
avez dit.
Voilà,
ça sent
exactement,
bon.
Les Gîtes de France par exemple, mieux qu'en 2019, donc très bonne nouvelle, mais le contexte sanitaire forcément, il reste à être pris en compte. Dans les aéroports notamment, les mesures de contrôle, on se dit que ça peut forcément faire perdre du temps, créer des embouteillages, il y aura de plus en plus de monde dans les aéroports, ce ne sera pas du 100% bien évidemment. Malgré tout, qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer ceux qui vont voyager, se déplacer cet été?
Alors vous savez, pour le coup, il y a eu un gros travail fait par l'Europe. On parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure s'agissant de l'Europe, on peut parler des trains qui arrivent à l'heure.
Le pass sanitaire est arrivé à l'heure.
Exactement. Désormais, bon, les uns et les autres, on a souvent téléchargé tous anti-Covid, et tous anti-Covid vous permet eh bien de télécharger votre attestation de vaccination ou bien votre test négatif ou bien votre certificat d'immunité. Et ainsi, avec ce QR code que vous pouvez produire, eh bien, partout en France ou en Europe, il y a une reconnaissance mutuelle de ce certificat et ça met de la fluidité.
On va vraiment gagner du temps.
Donc ça permet de donner de la fluidité, même avec la reprise effectivement d'un certain nombre de vols. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, c'est aussi un partenariat avec les compagnies aériennes, parce que les compagnies font ce travail de vérification à l'embarquement. Et puis, naturellement, nous faisons respecter toutes les, comment dire, les normes liées à l'entrée sur le territoire français. Parce que vous savez que nous avons classé les pays dans le monde en trois couleurs.
Oui. Mmh.
Les pays verts, c'est les pays qui sont où l'épidémie est régulée. Ça comprend notamment l'espace européen. Il y a les pays rouges, pour lesquels, au contraire, eh bien, on voit que les variants sont très actifs, que le virus circule de façon active. Et par exemple, c'est le cas de l'Inde, de l'Afrique du Sud, etc. Eh bien là, d'ailleurs, on ne peut pas accueillir de voyageurs pour des motifs de loisirs. Il y a juste des motifs impérieux et des contraintes lorsque vous venez de ces pays-là, d'isolement, etc. Donc, naturellement, il faut aussi faire respecter cela dans les aéroports. Et ces vols arrivent à des endroits bien spécifiques où les contrôles se font parce que, naturellement, nous entendons bien préserver, je dirais, cette reconquête qui est le résultat de l'effort collectif des Français.
Oui, mais alors l'effort collectif, c'est bien beau, mais sauf que vous venez de parler des pays verts, c'est notamment les pays européens. Mais le variant Delta, on estime à 90% des nouveaux cas d'ici fin août en Europe, c'est pas moi qui le dis, c'est le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Alors Jean-Baptiste Lemoine, avec toutes les incertitudes et l'inquiétude que ça peut engendrer, est-ce que vous avez un plan?
Alors c'est justement ce que annonçait le Premier ministre Jean Castex hier dans les Landes, c'est que le plan, il est simple, hein, c'est vacciner. Et on continue. Les doses sont là, les rendez-vous sont là. Vous avez vu qu'on est à plus de 30 millions de Français qui ont été vaccinés et il faut continuer. Et je le dis, comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur du vaccin. En revanche, il faut avoir peur du virus. Donc,
Ce delta, il est plus contagieux ou
il résiste
au vaccin?
Non. Manifestement, les études montrent que justement, le vaccin permet de, en tous les cas, d'atténuer toutes les formes graves, dans la plupart des cas, mais il est très contagieux, hein, de 50 à 60% plus contagieux. Donc, pour cela, en fait, on est aussi dans une course entre la propagation du variant Delta et la course à la vaccination.
Il ne faut pas qu'il prenne l'ascendant. Faut pas que ce vaccin prenne l'ascendant. Mais est-ce que vous avez un plan, par exemple, pour les hôtels, pour les hébergements touristiques, si vous n'allez pas pouvoir vérifier dans chaque hôtel si les personnes qui arrivent ont un pass sanitaire?
Non, alors après...
Mais ça peut créer des clusters.
Le pass sanitaire, il est demandé dans les... pas dans la vie quotidienne, il est demandé dans les endroits où il y a vraiment du brassage. C'est-à-dire un concert avec plus de 1000 personnes, la boîte de nuit, par exemple. On les rouvre le 9 juillet, ouais. Sous condition de pass sanitaire, c'est-à-dire que vous prouviez que vous êtes soit vacciné, soit que vous avez un test négatif, parce qu'on veut éviter effectivement ces clusters. Et puis après, si on détecte des clusters, eh bien, on met en place cette stratégie d'aller tracer d'où vient le cluster.
Donc,
les personnes,
dans un camping,
etc.
Dans un hôtel, vous pouvez mettre ça en place, ou dans un club de vacances?
Ah, bien sûr, on se prépare, on s'est préparé,
préparé
à tout cela,
à ce scénario,
à pouvoir à tout moment remonter ces clusters et lutter contre. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, j'insiste encore, certains peuvent avoir des doutes, n'en ayez pas. Je veux dire, le vaccin, il est là pour sauver, il n'est pas là pour vous embêter.
Jean-Baptiste Lemoine, chaque jour on découvre une marque, un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui on parle vacances, alors on va retourner sur un droit qui est très précieux, hein, un avant-de-vœu en France. On va découvrir l'histoire des congés payés. Tiens, savez-vous Aurélien qu'avant la loi de juin 36, qui institue donc 2 semaines de congés payés pour tous les salariés, très peu d'employés et d'ouvriers bénéficiaient de ces vacances rémunérées, ouais. À la différence de l'Allemagne ou même les pays scandinaves. Hein, ça a commencé
dès les années 1880.
On s'est rafraîchi un peu là.
Effectivement, on va apprendre des choses sur ces congés payés, leur histoire, leur évolution. Et les réponses, eh bien, c'est tout de suite dans la saga du jour qui est racontée par Dora Nana.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Au risque de vous décevoir, la France n'a pas été en avance sur son temps en matière de congés payés. La Pologne, la Norvège ou le Brésil nous avaient déjà devancés sur cet acquis social. Les premiers congés payés apparaissent à l'été 36 et se généralisent à tous les corps de métier après la victoire électorale du Front populaire. Ils sont le fruit d'un long combat politique et syndicaliste, comme le rappelle l'historienne Danielle Tartakovsky au micro de Pierre-Louis Bas sur Europe 1 en 2006.
Ces congés payés ont tellement fait date et continuent à faire date et à faire image, c'est que les grèves avec occupation d'usines ont éclaté en juin. On part en vacances 15 jours plus tard. Non seulement c'est des grèves qui se terminent par une victoire, il n'y en a pas tellement dans notre histoire avec une telle ampleur, mais les fruits de la victoire sont perceptibles dans la vie quotidienne de chacun. Ça a été non seulement une victoire du collectif, mais ça a été une victoire du collectif qui a permis aux familles, aux hommes, aux femmes, aux enfants de partir individuellement et de s'épanouir.
À une époque où seule la bourgeoisie s'octroie des jours de repos en quittant la ville aux premières lueurs de l'été pour ne pas souffrir de la chaleur et goûter aux joies des bains de mer.
Les images qui sont restées des images fortes sont ce moment absolument extraordinaire où des hommes, des femmes ont pu pour la première fois quitter leur horizon extrêmement étroit et partir. Il y a eu un double choc, hein, puisque ces hommes, ces femmes qui découvraient la mer, on a vendu en 1936 500 000 billets, ce qui est peu rapporté à la masse des Français, ce qui est énorme dans la mesure où c'est une première. Mais c'est un phénomène très minoritaire. La plupart des hommes et des femmes, et en particulier ceux qui travaillent dans les usines, hein, et ils sont évidemment beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, ne partent jamais.
Ces 2 semaines de congés payés par an vont bouleverser la vie quotidienne des Français qui vont découvrir les joies des vacances, jusqu'alors réservées à la bourgeoisie, et le tourisme s'ouvre aux classes populaires. En 1937, ils seront près de 2 millions à prendre le train direction la mer ou la campagne, et plus de 5 millions en 1951. 5 ans plus tard, sous le gouvernement de Guy Mollet, la 3e semaine de congés payés est créée, et en 1968, les Français obtiennent une 4e semaine de congés payés. C'est le début de ce que l'on appellera plus tard la société de loisirs. Et la France découvre les bouchons, des chassés-croisés l'été, mais aussi les joies du camping, comme ici en Moselle à l'été 1971.
On va chercher des œufs, du lait dans les fermes voisines, les concours de pétanque, de pêche à la truite, les veillées au feu de bois, knack et pommes de terre. Bref, c'est un nouveau folklore qui naît à Saint-Maurice-sur-Moselle, dans le petit camping du bord de la Nationale 66.
En 1982, la 5e semaine de congés payés est adoptée sous la présidence de François Mitterrand. Le gouvernement a depuis un an assoupli les règles pour permettre aux employeurs d'imposer plus facilement aux salariés des jours de congés payés. Et dans le même temps, les vacances illimitées sont déjà à l'essai dans quelques entreprises. Alors 85 ans après leur création, qu'adviendra-t-il de nos fameux congés payés? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, bonnes vacances à tous.
Et c'était la saga
suite,
du jour.
Hein.
Bah pour certains, peut-être.
Oui, pour certains.
La saga du jour signée Dora Nana. Jean-Baptiste Lemoine, qu'est-ce que ça vous inspire, tout simplement, les congés payés?
Eh bien, écoutez, à travers votre chronique, on est revenu sur cette conquête sociale. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une autre forme de conquête. C'est une conquête sanitaire. C'est parce que les efforts collectifs sont là et doivent rester là, eh bien, qu'on peut à nouveau partir en vacances. Donc, j'insiste, soyons majeurs. Et vacciné.
Oui, il faut être vacciné hein, parce qu'il y a ce variant Delta qui plane. Jean-Baptiste Lemoine, vous êtes le secrétaire d'État chargé du tourisme. Vous restez encore avec nous jusqu'à 14h.
Volontiers.
Europe 1.
Il est 13h39.
Allez, direction les trophées Europe 1, la France bouge. Aujourd'hui, le pitch du jour, c'est Alma Héritage.
Oui, une plateforme pour aller passer ses vacances dans un château. On en saura plus d'ici un instant. Et c'est l'heure des trophées Europe 1, la France bouge. Chaque jour, il ou elle tente de vous convaincre et pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil toujours attentif et forcément un peu exigeant de notre témoin du jour. Aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Lemoine.
Bon,
c'est
bienveillant, hein, bienveillant. Franchement.
Toujours chargé du tourisme. Et puis nous serons évidemment rejoints, comme toujours à cette heure-ci, par l'indispensable Nathalie Carré de la CCI.
Et encore une bonne idée dans la France bouge. Aujourd'hui lancée il y a tout juste quelques semaines. C'est vous, Marie Ducornet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 30 ans, vous êtes la cofondatrice de Alma Héritage. Alors là aussi, on reste dans les vacances avec votre plateforme française solidaire qui nous permet de réserver nos prochaines vacances au cœur du patrimoine français. Alors de quoi s'agit-il? On va écouter votre pitch, c'est parti, vous avez une minute.
Donc Alma Héritage, c'est une agence de valorisation du patrimoine historique qui a été cofondée avec Aliénor de Bonneville, qui se place aux côtés des propriétaires de domaines historiques pour les aider à valoriser leur domaine. Et fort de cette compétence, nous avons lancé une plateforme solidaire de réservation de séjour au cœur du patrimoine, qui est sortie hier, qui est toute neuve, et qui propose aux voyageurs de réserver des hébergements, donc des gîtes, des chambres d'hôtes, des expériences exceptionnelles, qui peuvent être des dégustations de vin dans un château, une visite aux chandelles dans une ferme ancienne, un atelier pour fabriquer son pain dans un moulin ancien. Et également, on propose aux voyageurs, sera disponible très bientôt, des expériences bénévoles qui permettront aux voyageurs de donner quelques heures de leur temps aux propriétaires et gestionnaires de domaines historiques pour les aider dans des tâches simples du quotidien de la vie d'un domaine, comme remonter un petit muret qui s'écroule, trier quelques archives qui traînent, des choses simples mais qui permettent aux voyageurs de devenir acteurs de la sauvegarde du patrimoine. Et on propose également aux voyageurs de contribuer avec une contribution solidaire qui représente quelques pourcents de sa réservation, un très petit montant, et d'en fait choisir une fondation ou une association de sauvegarde du patrimoine à qui cette contribution est reversée. Et ce sont nos associations partenaires qui travaillent avec nous.
Eh bien, parfait.
C'est bien, hein. Fabriquer son pain dans...
Plein d'idées. Alors,
dans
je vais faire mon côté chiffre avec ma casquette service éco. Combien de domaines sur la plateforme et combien ça coûte? Est-ce qu'il y a une moyenne pour se projeter un petit peu, si on veut, là, dès cet été, y aller?
Oui, alors la plateforme donc, vient de se lancer. On a une cinquantaine de domaines présents. D'ici le week-end, on va en avoir plus proche d'une centaine parce qu'on est en train de finaliser les dernières inscriptions.
C'est vraiment tout frais. Hein.
Exactement. Et donc, le prix, ça peut aller d'une chambre à 50, 60, 80 euros jusqu'à des châteaux assez grandioses avec des chambres à 400, 500 euros. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets.
C'est formidable. Moi, j'adore votre idée, aller fabriquer du pain dans un moulin ancien. Je vais m'inscrire. Alors Marie, je vous présente Nathalie Carré, elle est en charge de l'entrepreneuriat, la chambre de commerce et d'industrie. Comment ça va, Nathalie?
Ça va bien. Je peux venir avec vous fabriquer mon pain?
Mais oui, ça va être une très belle aventure. Tiens, on va faire la soirée de fin d'année de la France bouge là-bas.
C'est ça.
Non, plus sérieusement, quelles sont les forces et les faiblesses, s'il y en a, de Alma Héritage?
Bah, les forces d'abord, bah, en fait, on fait d'une pierre quatre coups quand même. Alors, pierre sans jeu de mots. Hein. Donc, on a des vacances dans un lieu d'exception, la participation à la préservation du lieu, le soutien de fondations qui œuvrent pour le patrimoine français et surtout la découverte de lieux en fait, qu'on ne trouve pas sur les plateformes classiques de voyage. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mmh. Deuxièmement, bravo pour la description des lieux. On a l'histoire de la famille propriétaire, on a de jolies photos et une description assez claire du lieu et des équipements. Et puis, évidemment, les prix. Parce qu'en fait, c'était assez inattendu. On a des gîtes à 50 euros par personne qui sont juste magnifique, des chambres à 100 euros, donc on a des endroits plus chers, mais vraiment on a des lieux magnifiques qui sont accessibles. Alors vous venez de démarrer, les quelques points améliorés, ok, vous valorisez le patrimoine français, mais en fait vous restez une plateforme de réservation de vacances. Donc deux points importants, le moteur de recherche. Là, on peut chercher par région, mais en fait, on voudrait aussi chercher par thème. Vous le proposez en bas de page, il faudrait le remonter. On voudrait aussi des dates flexibles, voire choisir directement sur une carte de France. Puis sur le résultat de recherche, on a juste le nom du lieu, une petite phrase, un prix en tout petit. Faudrait un peu plus de description et peut-être un prix par personne. Parce que par exemple, vous avez le Château des Salles, 850 euros. Alors, ça peut un peu faire peur. Mais en fait, c'est le prix pour 15 personnes, pour un gîte de 15 personnes. Donc là,
850 euros qu'on divise
pour
par
15. Mais oui, c'est génial. Mais voilà, et donc là, du coup, soudainement, ça va beaucoup mieux. Et puis, donc mettez en avant ces prix accessibles, parce que les photos, effectivement, elles peuvent penser que c'est réservé quand même à des personnes très aisées. Puis, point important, toujours une histoire de prix, mais c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Beaucoup de personnes trouvent leur destination sur des plateformes comme la vôtre, puis ensuite, ils réservent directement auprès de l'hôtelier.
Oui, en direct.
Ouais. Et oui. Donc, j'ai testé. Mais alors, chez vous, en fonction des lieux, soit c'est moins cher chez vous, soit c'est plus cher. Donc, en soi, il n'y a pas de problème. Mais expliquez votre politique de prix pour que chacun puisse décider en connaissance de cause et réserve au bon endroit.
Ah oui, c'est vachement intéressant ce que vous dit Nathalie Carré. Mm-hmm. C'est vrai, c'est quoi votre politique de prix?
Alors, nous, on a décidé de fonctionner à la commission. Donc, on prélève une commission à chaque réservation effectivement effectuée sur notre plateforme.
De combien?
C'est 13% pour les hébergements, 15% pour les expériences, qui est en dessous de toutes les plateformes, grandes plateformes qu'on connaît.
Sur moyenne à 30, hein, dans 30%.
Et oui, 30, certaines à 20, d'autres à 17. Et donc, on fonctionne comme ça. Et donc, c'est vrai que les propriétaires, c'est eux qui rentrent leur annonce en fait, dans la plateforme. Et ils peuvent choisir le prix qu'ils indiquent selon leur envie. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines options qui ne sont pas mises sur notre plateforme, qui sont sur leur site. Il y a des choses qui varient, ce qui explique les différences de prix, mais on y travaille. Et pour vos remarques techniques très, très judicieuses, on est déjà en train de créer une version 2 de la plateforme qui est en plein développement, qui sort à l'automne, avec en plus la possibilité de réserver des tables et beaucoup de corrections, comme la recherche qui sera optimisée, la présence donc de d'autres options, de plus de filtres et d'encore plus de possibilités de recherche.
Il y en a beaucoup de propriétaires de châteaux comme ça qui font appel à vous. Vous en avez recensé pas mal ?
Il y en a énormément. Il y a vraiment un nombre presque infini de domaines historiques en France, de domaines historiques qui proposent des offres de tourisme. Il y en a beaucoup aussi. Et donc, certains viennent à nous par le bouche à oreille parce que leurs voisins leur ont parlé de nous. D'autres, on va vers eux parce qu'on adore leur domaine et qu'on a envie de les mettre en avant. Donc c'est vraiment un nombre assez infini.
Jean-Baptiste Lemoine, quel est votre regard tourisme, patrimoine en France ?
On est dans l'idée.
Le patrimoine est une composante essentielle du tourisme. Et moi, surtout, ce qui me fait plaisir, en écoutant Marie Ducornet et auparavant Anthony Debord, c'est que la France, grâce à eux, elle va rester cette puissance touristique et cette puissance où s'invente le tourisme.
Parce que,
souvenez-vous, il y a quelques décennies, le Club Med, c'est né en France. Ça a essaimé partout dans le monde. Regardez, Gérard Brémond, qui a créé Avoriaz, Pierre et Vacances, etc. Pareil, ça s'est aimé partout. Et on a eu Philippe de Villiers qui a lancé le Puy du Fou. Mmh. Ça s'exporte en Espagne, etc. On a eu des créateurs géniaux. Eh bien, aujourd'hui, ils s'appellent Tony Debord, ils s'appellent Marie Ducornet. Ce sont des jeunes pousses. On peut aussi penser à Vaauvert, à Patricia, à Soliken. J'en ai plein. Et donc, il y a un écosystème de jeunes pousses dans le domaine du tourisme, du patrimoine, eh bien, qui fait chaud au cœur à voir.
Ils sont en train de se lancer là depuis quelques semaines, hein, en pleine période compliquée quand même.
Oui, mais ça montre aussi que, vous savez, la crise, c'est aussi un moment où il faut prendre des décisions rapides. Et c'est là aussi, on le voit, il y en a qui se sont jetés à l'eau.
Comme vous, Marie Ducornet.
Ils ont accéléré. Donc, tant mieux.
Tant mieux et bravo. D'ailleurs, très bonne, je tiens à préciser que Nicolas de Villiers, le président du Puy du Fou, sera notre invité parce qu'on va être en direct de La Roche-sur-Yon le 1er juillet.
On partait en balade avec Emmanuel Dutheil,
voilà,
c'est sympa.
On part là-bas, donc vous faites bien de le rappeler, monsieur le ministre.
Et alors, permettez-moi un petit cocorico parce que tout cela est parti de Lyon. Patrick, nous avons en commun avec Marie Ducornet. Et donc, j'incite également les auditeurs
à sillonner
le Gardenais,
le Chablisien. Voilà, il y a tout, il y a le patrimoine, il y a le vin, c'est une terre bénie des dieux.
Bonne chance en tout cas à vous Marie Ducornet, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Alma Héritage. Vous reviendrez nous raconter comment s'est passé l'été quand même. On est très 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 curieux de savoir, de connaître la suite. Revenez quand vous voulez.
Et un grand merci évidemment à Nathalie Carré, on vous retrouve demain. Une adresse pour vous aussi prendre la place de Marie, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Et Europe 1. Suite et fin de notre émission, vous restez avec nous, hein, Jean-Baptiste Lemoine. Il est 13h49.
Dans un instant, demain au travail, notre monde se transforme et nos entreprises aussi. Il y aura un gros plan sur une solution pour souder les équipes après ces longs mois de distance.
On en a besoin.
Là, c'est juste après la pub. On va savoir ce qui se passe chez Fed, le groupe Fed.
C'est ça, à tout de suite.
Et c'est la dernière partie de votre émission. Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé au tourisme. On a dit plein de choses, mais c'est passé très vite.
C'est passé très vite. Et là, on place à demain au travail, parce que notre monde se transforme. Nos entreprises aussi. Et plus que jamais, il est nécessaire de se parler, de se retrouver quand on travaille dans une entreprise, surtout après les mois qui viennent de s'écouler. Et c'est ce que vous avez mis en place, Axeline Rogier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la chargée de marketing et de communication du groupe Fed. Le groupe Fed, c'est un groupe dédié au recrutement. Vous êtes présent en France, mais pas seulement, au Canada, en Côte d'Ivoire, en Espagne, au Portugal, 350 salariés. Et de mon travail, parce que vous, vous avez trouvé une solution. Elle s'appelle WeLive. C'est une, vous faites appel à une start-up pour réunir les salariés autour du sport ou autour de bonnes actions. L'objectif, c'est qu'ils puissent se retrouver, c'est bien cela ?
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez mis en place ?
En fait, au mois de février, il faut savoir que dans l'ADN de Seine, il y a beaucoup de convivialité. On aime se réunir, on aime le challenge. Et donc, on était à la recherche d'une solution qui nous permettait tout ça. Et donc, on a mis en place ce challenge avec de la marche connectée et qui propose aussi des petits défis ludiques, des défis photos, des défis vidéo et quiz. Et qui nous ont permis de faire participer presque 300 collaborateurs chez nous. Mmh. Et donc voilà, donc ça a eu un fort succès. Et du coup, pour la semaine de la qualité de vie au travail, on a refait ce challenge, cette fois du coup en se confrontant à d'autres entreprises, puisque c'était un format inter-entreprise cette fois.
Et est-ce que maintenant vous allez pouvoir le poursuivre avec le retour progressif au bureau ? Est-ce que vous gardez des formes hybrides aussi peut-être de ce type d'action ?
Ah ben tout à fait, on est totalement preneurs, surtout que ça nous permet d'engager nos collaborateurs en Côte d'Ivoire, au Portugal.
Ils permettent de se connecter en plus, ouais. De se connaître, parce qu'il y a plein de personnes qui ne se sont pas vues depuis plus d'un an. Et donc ça permet qu'ils puissent être mis en relation les uns avec les autres sans se voir forcément.
Tout à fait, tout à fait. On a eu en plus plein de nouvelles recrues pendant cette période un peu compliquée, donc depuis un an et demi. Et du coup, ça nous a permis vraiment de mélanger nos équipes à travers ces 5 pays, à travers tous ces bureaux. Et c'était vraiment un moyen tout nouveau pour nous de réunir, entre guillemets, nos collaborateurs, puisque avant, on le faisait beaucoup, beaucoup en présentiel. Mais du coup, c'était assez limité, puisque dans 5 pays, c'est un peu compliqué de réunir les gens. Et voilà, ça a vraiment répondu à ce besoin, tout à fait.
Donc, c'était déjà dans la culture d'entreprise, mais il a fallu l'adapter à la situation. Hein, c'est vraiment ça l'idée.
Exactement. Mais je pense que c'est un peu un défi que beaucoup d'entreprises ont dû relever. Mais nous, ça, c'était d'autant plus vrai qu'on fête nos 20 ans en plus cette année. Donc, on avait vraiment envie de marquer le coup. Et puis, WeLive nous a vraiment permis de répondre à ça, sachant que ça a vraiment fait du bien au moral. On entendait nos équipes en parler. Enfin, on sentait vraiment
le moral. C'est vraiment ce qui revient là systématiquement. Jean-Baptiste Lemoine, vous êtes notre grand témoin du jour, vous êtes le secrétaire d'État chargé du tourisme. Vous aussi, vous le remarquez même dans le milieu, surtout dans le milieu du tourisme qui a été lourdement frappé par la pandémie. On a besoin de se retrouver, les salariés entre eux ont besoin de se retrouver. On vous le remonte ça, vous le
bien
voyez
sûr,
sur le terrain.
Je veux dire, moi je suis secrétaire d'État chargé du tourisme au Quai d'Orsay. Nous avons des équipes diplomatiques, consulaires partout dans le monde qui s'occupent aussi des Français de l'étranger. Pendant plusieurs mois, on n'a pas pu aller au contact, à la rencontre de ces Français établis hors de France. Et donc, moi aussi, j'ai un peu voyagé différemment depuis mon bureau avec beaucoup de Facebook Live, de visio, etc.
Vous avez fait des challenges aussi ?
Et on avait besoin de garder ce lien différemment, on s'est adapté. Mais c'est vrai que qu'est-ce que ça fait du bien quand même de pouvoir à nouveau se revoir en vrai, comme je vais le faire la semaine prochaine à Genève avec les élus français du secteur. Voilà, je crois qu'il y a eu un défi pour toutes nos organisations. Je crois qu'on l'a surmonté. Et puis aussi, il y a des tendances, on le voit, qui travaillent la société. Le télétravail, je me souviens, il y a 4, 5, 6 ans, quand j'étais au Sénat, sur la loi travail, c'était un gros mot, souvent. Et bien aujourd'hui, on voit que c'est utile, ça doit être encadré naturellement, et que certains d'ailleurs font des choix de vie. Liés à ça,
et ils en ont fait.
Vont parfois s'établir qui en Bourgogne, qui au Pays Basque, etc., pour pouvoir travailler de plus loin, mais continuer à travailler.
La Bourgogne et le Pays Basque, on peut dire que c'est vos deux amours.
Hein, exactement.
C'est un peu ça, Jean-Baptiste Lemoine.
Joli choix, joli choix.
Merci à vous, c'est la fin de votre émission. Merci d'être venu dans la France Bouge. Vous êtes le secrétaire d'État chargé du tourisme. On se souhaite un bel été alors.
Très bel été.
Une belle
Merci
reprise.
Merci à vos auditeurs, à vos auditrices.
Merci à vous, Aurélien.
À bientôt,
c'était un plaisir d'être avec vous.
Un
demain, on va retrouver Emmanuel Duteil qui sera de retour. Eh bien, demain, ce sera une émission sur les lauréats des trophées de l'avenir de l'an dernier. Eh bien oui, on les entend pitcher. Que sont-ils devenus depuis un an ?
Eh
bien, on va les découvrir autour de notre président du jury, Alexandre Mars. À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.